les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Nous avons choisi le mot désert. Alors le désert, évidemment, c'est toute une histoire pour les Juifs.
Évidemment, c'est les 40 ans dans le désert et qui ne sont pas au départ voulus par Dieu. Dieu a un plan très simple. On sort les Hébreux d'Égypte, ils reçoivent la Torah au mont Sinaï et 3 mois après, ils entrent en Sainte. Sauf qu'ils sont incapables, on en parlait la semaine dernière, ils sont incapables d'assumer cette liberté, d'assumer cette confiance en Dieu. Et Dieu se dit qu'ils doivent passer par une étape transitoire qui est le désert. Et toute cette génération qui a connu l'esclavage, qui n'a connu que l'esclavage, va disparaître. Et une nouvelle génération qui a connu que la liberté va émerger. C'est cette génération-là qui va entrer en Terre Sainte. Mais ils doivent passer par le désert. Et ce qui est intéressant, c'est je crois que dans le désert, ils apprennent deux choses. La première, la confiance éminente en Dieu. Vous savez que le pain tombait du ciel.
Oui, il fallait avoir confiance, voilà. Même, hein, qu'on allait manger quelque chose.
Parce qu'on ne pouvait pas garder pour le lendemain. Ce qu'on gardait pourrissait. Donc il fallait vraiment prendre ce qu'on avait besoin. Et le lendemain, on espérait que Dieu allait nous renvoyer autre chose. Et pendant 40 ans, ça n'a jamais manqué. Donc ils ont appris à avoir confiance en Dieu, appris que dans ce lieu sans production, sans espace de production, le désert, on ne peut rien produire, c'est Dieu qui subvenait aux besoins des hommes. Et donc, ils pouvaient en déduire que, quel que soit le lieu, c'est Dieu qui subvient aux besoins des hommes. La deuxième grande chose, c'est qu'en hébreu, le mot désert se dit midbar, et c'est les mêmes lettres que medaber, qui veut dire celui qui parle.
Ah, j'aime beaucoup quand vous me faites de l'exégèse, là, alors le sens
là,
des mots,
suivre.
J'aime bien.
Oui, mais oui. C'est, je crois, fondamental. Désert, c'est celui qui parle. Et ça renvoie évidemment pour les chrétiens au fait que Jésus va parler dans le désert. On ne peut parler que dans un espace où il y a du silence. Et probablement qu'on ne peut parler que dans un espace où on peut s'entendre soi-même, où le bruit du monde ne perturbe pas la capacité d'écoute des hommes entre eux, et de soi à soi, et de soi à Dieu. Et je crois que le fait que le mot désert veuille dire aussi parler, c'est l'endroit où la parole de Dieu peut vraiment être instillée aux Hébreux. Dans chaque instant de leur vie, pendant ces 40 ans dans les airs, ils vont vivre la parole de Dieu. Ils vont porter la parole de Dieu, on peut même dire ils vont être la parole de Dieu. Alors que vous commencez les évangiles par la parole qui s'est faite chair, ce peuple s'est fait parole. Parce qu'il a porté, il a incorporé la parole de Dieu. Et je crois que c'est un passage incontestable pour les Hébreux. Ils ne pouvaient pas devenir le peuple des Hébreux sans ce passage dans le désert.
Oui, autrement dit, la parole de Dieu n'aurait pas pu être acceptée et transmise sans ce passage au
Bien
désert,
sûr.
Sans cette vie au désert. Bien Mais
sûr.
Dans le désert, on apprend surtout à survivre, parce que comme les conditions de vie sont en effet très très dures. Donc effectivement, ça aussi c'est inhérent à la culture juive, d'apprendre à survivre, quelles que soient les conditions.
C'est-à-dire que les conditions sont qu'une façon de nous permettre d'être nous-mêmes. Quelqu'un qui sera ce qu'il est, qui aura conscience de ce qu'il est, il sera le même où qu'il se trouve. Il se trouve dans un quartier magnifique, il sera lui-même. Il se trouve dans un quartier difficile, il sera lui-même. Les éléments extérieurs ne sont qu'une donnée de ce qu'il est. Si on était radicalement différent en fonction des stimuli externes, on ne serait plus qu'une victime des éléments. Moi, je pense, c'est le judaïsme avec moi, que l'homme, c'est lui qui décide de ce qu'il sera. Mais je crois que la question que vous posez, elle pourrait renvoyer finalement à un passage du prophète Osée qui est merveilleux. On invoque Dieu et on lui dit « Mon Dieu, viens derrière moi dans une terre non semée, dans le désert, comme à l'époque de nos premiers amours. » C'est-à-dire que le désert, c'est le symbole de cette terre en friche que les hommes doivent construire. Et c'est vrai qu'on est parfois prisonnier de l'entourage, du monde dans lequel on est, de la société dans laquelle on vit, comme si on pouvait rien construire et comme si on regrettait ce temps du désert où on avait une terre en friche.
Alors que je crois que pour les premiers chrétiens, je pense entre le 1er et le 4e siècle du christianisme, les pères du désert, ce qu'on appelle, c'est plutôt une fuite du monde. Ce n'est pas comme ça dans la pensée juive, on ne le considère pas comme une fuite, c'est-à-dire un retirement.
Oui, on le trouvait par exemple chez les Esséniens, au début de notre ère, où il y avait manifestement une volonté de se couper du bruit du monde. C'est-à-dire, en fait, il y avait les bons et les méchants. Les bons étaient ceux qui se coupaient de ce monde, parce que ce monde était aux mains de Bélial, c'est-à-dire aux mains des puissances du mal. Et il y avait les méchants qui avaient pactisé avec le mal. Mais, si vous voulez, ça, c'est une tentation qui existe dans le judaïsme. On n'a pas d'ordre monastique dans le judaïsme.
Oui, il n'y a pas de monastère.
Non, on a des endroits qu'on appelle la yeshiva, qui est un endroit dans lequel on étudie avec vocation à enseigner. La seule étude valable, c'est celle qui, en hébreu, l'ilmod ou l'amed, voilà. Voilà un concept dont on pourrait discuter un jour. La transmission, l'enseignement. L'idée, c'est que On se retire du monde, c'est-à-dire qu'on se libère des contingences du monde pour pouvoir se consacrer à la Torah. Mais il y a un moment où cette Torah, faut la confronter au monde. Parce que si vous la déconnectez radicalement du monde, elle devient étrangère au monde. Or, il faut qu'elle fertilise toujours le monde. Donc, chez nous, on a cette idée d'étude, mais avec toujours le retour dans le monde.
Par exemple, les techniques de l'ascèse qu'on pratiquait dans le désert, c'est-à-dire essentiellement le jeûne, et puis même les non-connaissances intellectuelles, le non-accès à l'intelligence, toute cette ascèse-là, elle n'est pas propre au judaïsme.
Non. Non, parce que il y a un très beau passage qui dit que le jour où on rendra notre âme à Dieu, espérons à 120 ans, la première question que nous posera l'ange qui nous jugera, c'est « T'es-tu privé de quelque chose que Dieu t'avait permis ?» t'avais autorisé. Et je crois qu'il y a une grande idée, justement, et c'est parce qu'on est passé dans le désert qu'on est le prix des choses et le fait que c'est important de pouvoir transmettre quelque chose aux autres, et donc transmettre un héritage fait de Torah, de valeur, eh bien, c'est ce passage dans le désert qui nous a constitué en responsable de la fertilisation du monde, en quelque sorte.
Alors, Renan disait le désert est monothéiste, enfin, je crois que c'est Renan. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le désert, ça porte à la prière envers un dieu monothéiste?
Je crois que le désert, par la violence de sa géographie et l'aridité de son horizon, nous amène à comprendre l'infinie finitude de l'homme.
Et puis, dans le désert, il y a aussi les oasis, donc les zones de paix.
Et bien là, ça nous amène à l'infinie gratitude de Dieu.
Voilà. Merci à Haïm Korsia. Et la prochaine fois, on parlera peut-être de la transmission, justement. Voilà un thème intéressant. À bientôt.